Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Nouveau gouvernement regarde sur les 8 grandes orientations. Sur le thème du Grand Dialogue de ce soir, de nouvelles missions prioritaires ont été fixées après la mise en place du nouveau gouvernement. Au nombre de 8, ces orientations tournent autour, entre autres, du renforcement de la défense et de la sécurité, de la poursuite des réformes politiques, de l'apaisement du climat social et de l'organisation des élections. Cependant, Abdoulaye Meïga, le nouveau chef du gouvernement, a insisté sur le renforcement de la défense et de la sécurité. Selon lui, en cas d'arbitrage budgétaire, la priorité sera accordée à la sécurité. Quelle analyse du contenu de ce document est-il réaliste pour une transition dont la durée n'est toujours pas définie? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Madame Samake Fatoumata Traoré, experte sur des questions de gouvernance politique. Docteur Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Et Docteur Ahmadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. À la présentation, je suis Branaki Lomaïga, invité auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Avant tout propos, suivant la déclaration du Premier ministre général de division Abdoulaye Meïga sur les orientations de son gouvernement.
La lettre de cadrage du chef de l'État nous a été remise lors du Conseil des ministres inaugural. Pour plus de précision, la dite lettre comporte 8 domaines. Le premier domaine est la défense et la sécurité. Le deuxième domaine est la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième domaine est la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Le quatrième domaine est l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Le cinquième domaine est l'amélioration du système éducatif et l'emploi des jeunes. Le sixième domaine est l'apaisement du climat social. Le septième domaine est le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires qui respectent notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Le huitième domaine est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. À cet effet, le gouvernement a été instruit d'élaborer un plan d'action global. Dans notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire. D'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. En 3 ans, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire national, faisant du Mali un pays miraculeux. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre questions de sécurité et toute autre question, la primauté sera accordée à la sécurité. Cette orientation entraînera des retards dans l'exécution d'autres actions sans pour autant empêcher leur réalisation.
Madame Samake, vous venez d'écouter le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meïga, sur les 8 commandements. Quelle lecture faites-vous de ces 8 commandements?
Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Je pense que ces orientations sont des orientations, je veux dire, stratégiques. Hein. C'est des orientations qui montrent à suffisance que la question de la sécurité est au cœur de la politique publique et que finalement, pour tout ce qui concerne les besoins urgents des populations, que cela est mis en avant, mais sans oublier également les élections, même si ça a été cité en dernier lieu. Donc l'analyse que je fais de ça, c'est que c'est vraiment une feuille de route assez ambitieuse, pragmatique aussi, parce que ça touche des questions essentielles qui tiennent à cœur la population malienne, les autorités. Et en même temps aussi, on sent que dans cette lettre de cadrage, le Premier ministre veut vraiment aller vite en matière déjà de ce qui a été fait, c'est-à-dire consolider les acquis, mais également faire en sorte que les besoins essentiels des femmes, les besoins essentiels de la population soient quand même pris en compte dans la politique du gouvernement. Donc je trouve que c'est vraiment une lettre de cadrage qui va dans le sens vraiment de la mise en œuvre de la politique, de la trajectoire qui a été dessiné dès le départ par la transition en termes de recherche de souveraineté absolue pour le peuple malien.
Cette lettre de cadrage est-elle ambitieuse?
Je trouve ambitieuse, mais je pense également qu'il y a d'autres points qui auraient dû ressortir. Par exemple, quand j'ai vu qu'on parle de sécurité et que finalement la sécurité revient encore en cas d'arbitrage par rapport à certains besoins économiques, alors que nous, on a toujours prôné le fait que sécurité et développement devraient aller ensemble. Parce que même quand il y a insécurité, c'est vrai que ça touche les populations, on ne peut pas faire de développement sans la sécurité, mais en même temps, quand il n'y a pas de développement, ça nourrit l'insécurité également. Donc du coup, je trouve qu'elle est ambitieuse, mais ce n'est pas une mission impossible. Peut-être même qu'il faut en rajouter autre chose. Moi, je parlerais plutôt de la question de la gouvernance globale des ressources publiques, de la gouvernance dans les services, comment on rend le service aux populations. C'est vrai que dans la partie où qu'on consacre aux réformes, peut-être ça peut ressortir là-dedans, mais j'ai vu qu'on a surtout parlé de la justice. C'est vrai, la lutte contre la corruption doit être vraiment au cœur des priorités, mais je pense qu'il y a d'autres situations qui auraient pu être abordées pour que justement cette feuille de route soit beaucoup plus complète.
D'accord. Docteur Ngolo Diarra, madame disait tout à l'heure que le Premier ministre veut aller vite. Ces axes sont-ils réalisables selon vous?
En fait, le Mali vient de loin. Hein. C'est très difficile actuellement. Au Mali, il y a deux choses. Sécurité politique qui soulève souvent les défis. Alors, si la situation devient très dure au nord, politiquement, on voit que facilement, on vient chercher l'ordre constitutionnel existant. Alors, c'est les deux extrémités. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait la sécurité. Mais pour autant, il ne faut pas oublier la stabilité politique. Parce que c'est les deux qui conduisent le pays dans des situations chaotiques. En tout cas, les éléments cités ici, c'est valable dans la gestion d'un État. Ça, c'est les éléments essentiels pour la bonne marche d'un État. Alors, la sécurité, on avait perdu 800 000 km². Il est revenu sur là-dessus. Alors, ces 800 000 km² étaient présupposés d'être l'état de l'Adawat mené par les groupes politico-militaires. Et grâce aux efforts, ces groupes politico-militaires sont pratiquement à la frontière et nous sommes en position avancée à ce niveau. On échange régulièrement avec des officiers sur place. Alors, la question de la sécurité a fait en sorte qu'on a décidé d'être avec les voisins aussi. Et pas plus tard qu'avant-hier, on était avec le général Dao, on échangeait sur ça au colloque de la EFSAP. Il a mis l'accent sur ça. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est les séparatistes veulent retourner, prendre Kidal et demander la séparation. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut vraiment beaucoup travailler. Donc, on a travaillé parce qu'être chercheur dans ce pays, ce n'est pas du tout facile. Le 16 août 2021, j'ai rencontré le ministre de la Défense, que je salue ici, son courage. On échangeait sur ça. Et Paris demandait de partir. Et on disait, on tape partout. Le Mali va devenir Afghanistan parce que le Mali qui est parti, c'est comme ça. Et dans l'entretien avec lui, avec son staff, il m'a reposé la même question. Ngolo, est-ce que le Mali va devenir comme Afghanistan en tant que vous, les chercheurs? J'ai dit, ah. Monsieur le ministre de la Défense, il y a Samuel Laurent qui a écrit Salitan, Cher Mikhailov a écrit Afghanistan, Afghanistan. Bon, on en parle, mais le Mali ne va pas devenir. Mais de toutes les façons, si vous voulez aller de loin, il faut changer le paradigme du conflit armé malien. Alors, les groupes cités terroristes, ce ne sont pas les terroristes. Mais ceux qui veulent diviser le pays, c'est les terroristes. Si vous changez votre façon de faire, alors vous allez prendre le dessus sur les choses. Alors, on avait travaillé dans ce sens, qu'il faut sortir dans l'accord, etc., dans l'accord d'Alger et faire face aux groupes armés. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire ici pour défendre l'intégrité territoriale. Et tant qu'on n'arrive pas à couvrir l'intégrité territoriale, et si on s'entête de faire l'instauration, parce qu'en tant que, en tout cas, un juriste, je ne vais pas plaider pour le changement anticonstitutionnel du pouvoir, mais tant qu'on n'arrive pas à recouvrir l'intégrité territoriale et que si on instaure les libertés démocratiques, il ne faut pas qu'il y ait d'autres crise politique pour balayer ça. C'est pourquoi je comprends sa décision de faire de dire que la sécurité va être en première position. Mais pour autant, il faut aussi travailler à ce qu'il y ait de la stabilité politique en prenant en compte tous les aspects sociologiques, les différends qui opposent la communauté musulmane au sujet du Haut Conseil islamique, des tensions qui sont là. Il faut travailler sur cette sociologie politique malienne pour stabiliser les choses parce qu'on n'a plus besoin d'une crise politique à Bamako.
Mais selon vous, est-ce que ces axes prioritaires sont réalisables dans quel délai?
Oui, bon, ça, permanemment, un pays doit vivre comme ça, permanemment. Mais sauf qu'il faut arriver à trouver une solution des questions politiques pour vraiment sortir. Parce que la crise, notre démocratie est très mal à l'aise, mais il y a un pas en avant. Il y a des articles qui ont été aménagés dans la Constitution et pour l'effort de défense et de sécurité. Et c'est dit, le président qui sera élu démocratiquement, il doit en faire ses missions, la loi de programmation militaire, il doit faire en sorte que l'une de ses missions phares, ça serait de chercher les armements pour l'effort de défense et de sécurité. Bon, ces acquis de la transition qui sont là, la constitution du 22 juillet, alors donc il faut essayer de travailler et aller de l'avant pour retourner à l'ordre constitutionnel et essayer de pousser les choses. Et tout cela peut être fait vraiment dans un carcan scientifique et démocratique pour amener ce qu'on appelle la stabilité politique. Parce que si Bamako bascule dans des querelles politiques, alors nos hommes qui sont au front, ça pose d'énormes problèmes parce qu'on vit ces choses-là généralement dans l'histoire politique contemporaine du pays.
D'accord. Ahmadou Touré, la déclaration du Premier ministre que vous venez d'écouter, peut-on parler d'une déclaration d'intention?
Si la déclaration du Premier ministre est tout à fait normale, il y a eu deux déclarations. Une première déclaration du président de la transition lui-même, qui a instruit, qui a rappelé les grandes orientations qu'il a soumises aux nouveaux membres du gouvernement, qui se résume entre autres à la mise en œuvre purement et simplement des recommandations des assises nationales et du dialogue intermalien. Donc par rapport au point saillant sur lequel je vais insister, dans la déclaration faite par le président de la transition, il a surtout insisté que l'intérêt des autorités de la transition et du gouvernement de la transition, c'est de léguer des institutions fortes, stables, capables d'assurer la souveraineté pleine et entière du Mali. Et parallèlement à cette déclaration du Premier ministre, il est rentré en profondeur pour expliquer l'essentiel, pour faire comprendre au Mali que la fin de la transition, ce n'est pas pour demain, les élections aussi, ce n'est pas pour demain, et que la priorité pour le gouvernement de la transition n'est pas l'organisation des élections. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Du point de vue arbitrage budgétaire, il l'a expliqué. Du point de vue des axes et des domaines prioritaires, la sécurité et la défense est toujours en point 1 du gouvernement de la transition. Parce que pour eux, il y a non seulement le fait de la continuité de l'arquitecture territoriale qu'il faudrait continuer, le retour de l'administration, l'extension de l'autorité de l'État. Et entre autres, c'est des acquis qui, certainement, ils vont essayer de capitaliser au point de vue du discours. Donc c'est un discours d'action qui peut se réaliser dans un temps, mais le temps ne devrait pas être un facteur, le temps ne devrait pas être des barrières pour la mise en œuvre. Et il a souligné dans son discours, le général de division, le Premier ministre, a souligné qu'il faut des prérequis. Les prérequis pour toute action ultérieure, c'est l'avènement des Mali Koura. Un Mali Koura veut dire quoi? Un Mali conformant aux assises, un Mali où la mauvaise gouvernance, un Mali où la corruption, un Mali où la justice, un Mali où on a l'entièreté de notre territoire, un Mali où on est souverain, on décide de tout, on fait ce qu'on veut. Donc pour ce temps, est-ce que c'est pour demain, est-ce que c'est pour après-demain? On ne saurait rien dire, mais ce qui ressort valablement des deux discours, c'est que la défense continue, la sécurité continue et les élections, en dernier point des 8 axes, prouve à suffisance que les élections ne constituent pas des priorités.
Vous l'avez dit, hein, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a insisté sur le fait que la priorité absolue reste l'établissement de la sécurité et la défense. Quelques jours après cette déclaration faite le 28 novembre dernier, une dizaine de cadres terroristes ont été neutralisés ce dimanche 1er décembre à Tinzawatène. Est-ce à dire que les actions des autorités ont suivi la déclaration politique? les actions militaires ont suivi la déclaration politique.
Oui, c'est pour dire que, comme on l'a toujours dit, la sécurité, les continents, les surveillances continuent. Ce qui réconforte de plus non seulement les autorités de la transition qui ont prouvé à suffisance que la priorité est toujours, la sécurité constitue leur priorité. Et aussi, ce qui s'est passé à Tinzawatan s'inscrit dans un réarmement moral pour les troupes et un succès des services de renseignement et surtout un coup politique pour le gouvernement de la transition. Si vous voyez le timing, 24 heures après la mise en place de ce front, qui est composé des 5 anciens mouvements rebelles et sécessionnistes qui ont quitté l'accord et vous connaissez la suite pour essayer de se retrouver dans un nouveau front qu'on appelle le front de libération de l'Azawad, qui chercherait plutôt, pas à, militairement ils ne sont pas sur le territoire, mais qui chercherait plutôt à être reconnus par d'autres puissances, par les pays voisins. C'est comme si c'est des gens qui sont là, dans un système d'un aveu d'impuissance, dans un système de faux fuyants pour se reconstituer, on l'a vu, de la CMA en CSP, en CSP, en CSPDA. Et sur la neutralisation des 8 cadres, ça c'est un coup vraiment dur pour le front. Et notamment, il y a une des figures, notamment Fad et ses compagnons, qui serait du groupe du Gacha, du dissident de l'autre Gacha. Donc c'est pour dire que ce qui s'est passé ne peut que confirmer la présence militaire malienne, ne peut que confirmer l'envie du gouvernement à mettre la sécurité au-delà de toute négociation. Et par-delà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que ça va apporter aussi sur le CSP et le front? Ça peut engendrer des effets collatéraux, notamment à faire d'autres dissidences possibles, parce que en réalité, c'est que les gens devraient comprendre que sur le territoire national, ce n'est plus le Mali de 2012 ou le Mali de 2012. Nous sommes dans un nouveau Mali avec de nouveaux formats, avec un renforcement du service de renseignement, avec d'autres capacités militaires aériennes qui prouveront à suffisance que seul l'État a le droit de contrôler son territoire. Et ceux qui sont dans cette logique, il est temps qu'ils reviennent à la table de négociation, mais au préalable, il faudrait que la justice soit faite, notamment pour le bateau de Tombouctou qui me tient beaucoup à cœur, et pour d'autres situations intervenues au nord.
Madame Samake, cette neutralisation des cadres terroristes intervient au lendemain de la fusion des groupes séparatistes en une seule entité dénommée le Front de Libération de l'Azawad FLA. Il a parlé tout à l'heure, disait que c'est un coup dur pour le FLA. Est-ce vous êtes d'accord que c'est un coup dur pour le FLA?
C'est clair, c'est même visible. Parce que je pense que ça, c'est un succès historique après l'attaque qui a eu lieu à Tinzawatan il y a quelques mois. Et cela montre que le fait qu'on dise que l'armée est montée en puissance, c'est une réalité aujourd'hui. Les groupes terroristes n'ont plus de présence, on va dire, physique comme on le sentait avant avec une délimitation territoriale donnée. Mais maintenant, on voit que c'est des groupes qui, de façon sporadique, cherchent vraiment à se faire entendre. Et je crois que la neutralisation de ces personnes-là, c'est un message qu'on envoie aux groupes terroristes. C'est une manière pour l'État de leur dire « Écoutez, aujourd'hui, nous sommes les plus forts et vous ne pouvez rien contre cette marche inexorable vers la recherche de l'intégrité territoriale de notre pays. » Et en même temps aussi, cette neutralisation va quand même saper le moral de ces groupes terroristes qui, je me souviens, au lendemain de l'attaque de Tinzawatan, disaient que on va revenir et vous allez voir ce qui va se passer et que vraiment, le combat n'est pas terminé. Donc, je pense que c'est une réponse. Et en même temps aussi, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, l'armée maîtrise le mode opératoire de ces groupes terroristes, les traque. Parce que comme on le disait tantôt, souvent on le dit, avant c'est les groupes terroristes qui cherchaient nos militaires. Mais aujourd'hui, c'est nous qui allons les débusquer au fin fond. Je pense que le ministre de la Défense en a parlé. Et parce que le message a été envoyé bien avant aujourd'hui. On leur disait, si vous voulez vous rallier, cherchez à vous rallier, venez à la table pendant qu'il est temps. Sans quoi, nous allons sévir. Je pense que c'est ce qui s'est passé.
Peut-on s'attendre à une riposte de ces groupes armés terroristes ou tout simplement des opérations terrestres de l'armée pour récupérer cette ville résistante qu'est Tanzawatène?
Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que quand on voit ces groupes terroristes sont quand même soutenus par des puissances extérieures. Et à chaque fois que ces groupes terroristes cherchent vraiment à faire mal au Mali, vous allez voir qu'au-delà de ça, il y a des soutiens qui leur sont donnés. Et même, on a vu, il n'y a pas très longtemps, un pays qui a fait même l'apologie du terrorisme, du jamais vu, on va dire. Donc, les choses ne sont plus cachées aujourd'hui. C'est-à-dire, ça se fait de façon ouverte. Et je pense que cette lutte contre le terrorisme, on doit peut-être aller au-delà de ce qui est en train d'être fait actuellement. Parce que nous, en tant que pays qui sommes vraiment dans des situations, on dit pauvreté ou autre, de mal développement, si nous devons toujours continuer à nous armer et pour débusquer ces terroristes-là, c'est vrai que nous devrions nous défendre, mais est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme aussi? Chercher à savoir quelle est la cause de ce terrorisme-là. La cause, elle est connue, mais je pense aujourd'hui, on doit situer les responsabilités. Aujourd'hui, quand on regarde les terroristes tels que ça se passe, il y a des puissances qui sont là, qui ont de l'argent, qui financent ces groupes terroristes, et ces groupes terroristes vont sévir au vu aussi de tout le monde, et rien ne se passe au niveau international. Je crois qu'il est temps quand même de chercher à criminaliser déjà le terrorisme en tant qu'acte ignoble et barbare, et en même temps aussi que nos États puissent aussi continuer à porter plainte justement contre ces États qui continuent à financer cet État. Parce que tant que le financement n'est pas arrêté, le terrorisme ne s'arrêtera pas. Donc il faut trouver la solution à la base. Il ne suffit pas seulement de lutter contre les effets.
D'accord. N'Golo, depuis les intenses combats de juillet dernier, ayant fait de nombreux morts parmi les forces armées maliennes, aucune tentative de récupération de cette ville n'a été engagée. Est-ce à dire que désormais c'est une réponse de vengeance qui a été lancée ainsi?
Oui, en tout cas, une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie. Et depuis 2012, je travaille sur ces choses parce qu'on n'a pas le choix en tant que chercheurs. Nous, tous les chercheurs ici à Président, nous, notre mission, nous agissons dans le cadre constructiviste. Nous n'appartenons pas à un parti politique ou à un groupe, non. On forme des éléments, on apporte des solutions, on contribue à apporter des solutions. Alors donc, on a fait des documents, des publications, des colloques dans ce sens et on continue à se battre auprès de vous. Et pour revenir au niveau de votre question, c'est que je suis parmi des chercheurs qui ont cherché à voir ces officiers. Alors, et leur dire, changeons le paradigme de conflit armé malien. On ne peut pas continuer à dire que, bon, comme Paris le disait, ceux-ci sont des terroristes, ils sont bons, ceux-ci sont des séparatistes, il faut négocier avec eux. Alors, pour moi, l'objectif, c'était de renverser. Ceux qui ont pris des armes et demandé la séparation du pays, c'est les premiers terroristes. Ça, c'est une forme de terrorisme en sciences politiques contre l'État. J'arrive très bien. Alors, donc, là, il faut comprendre. À partir du moment où ils ont été chassés de Kidal et qu'ils ont tenté de s'installer au niveau de Tanzawatène et autre chose, mais il faut comprendre bien, parce qu'en réalité, l'élément juridique avancé par ces séparatistes, c'est très clair, c'est le droit du peuple à l'autodétermination. Madame vient de dire tout à l'heure. Et ils cherchent aussi à s'insérer en droit international. Bon, ceci, c'est un autre niveau d'analyse que certains de nos éléments ne pourront pas comprendre, mais en tant que chercheur, je sais. Donc, il fallait travailler pour démanteler tout ça là. Le fait qu'il y avait un accord coaché par l'organisation à vocation universelle, l'ONU, dans le cadre de l'AMINUSMA, ça c'était une violation de droit international. Monsieur Maïga, l'ancien Premier ministre, avant son départ à New York pour faire le premier discours après le changement anticonstitutionnel, je l'ai écrit à travers son cabinet pour dire voici des éléments, quand vous devez prendre la parole, qu'il faut faire. Il faut essayer de faire un discours scientifique et critiquer toute violation du droit international. internationale en défaveur de l'État malien. Alors, la résolution 2173 qui disait que autorise l'effort français d'utiliser tous les moyens possibles au Mali jusqu'à la fin du mandat confié à la MINUSMA. C'était une façon, entre guillemets, de placer le Mali sous tutelle française. Ça, c'était des papiers, des éléments qui sont écrits. Je ne sais pas comment c'est passé devant nos diplomates. Mais finalement, nos efforts ont fini par être payés à ce qu'on a compris qu'il fallait mettre fin à l'organisation à vocation universelle, cette situation, pour prendre les choses en main. Alors, le combat, ça se passe. Le président du présupposé État de l'Azawadi, il réside où? Il était au Niger, il a quitté là-bas. Les sources non officielles disent qu'il doit être effectivement en Algérie. Alors Bilal Achérif, il est le président présupposé d'être le président de l'Azawadi. Et ces séances-là, le débat doit être continué avec les pays, d'autres pays voisins qui ne sont pas avec nous, où ces séparatistes trouvent refuge. Donc, les bases arrières, donc il faut récupérer Tazawan et Tazawaten et essayer de les traquer jusqu'à l'air derrière de mer, si c'est dans un autre pays, trouver un moyen par rapport à ça.
Donc, vous voulez dire que c'est l'opération de vengeance qui a commencé?
Non, ce n'est pas de vengeance. Le pays est en train de récupérer ses territoires.
Le pays
vengeance,
est en train de tenter de récupérer. L'armée est partie jusqu'à d'ailleurs à Tazawaten et en juillet dernier.
Il faut retirer le mot vengeance.
Ce combat qui a coûté à des dizaines de soldats maliens et ses partenaires, l'armée a dit abandonner cette récupération et aller occuper ces anciens postes qu'elle occupait. Aujourd'hui, on voit encore des opérations militaires.
Oui, c'est stratégique. Le président, le général d'armée, il a parlé de cela et les conquêtes allaient continuer. Il fallait chercher les drones, les matériels nécessaires pour faire des réponses. Mais quand ces gens étaient en train de se constituer, il faut les éviter de se constituer. Front de libération de l'Azawad. Et quand c'est fait, il faut détruire. Et il faut continuer le combat jusqu'au dernier de mer. Parce que là, déjà, le droit à l'autodétermination, le droit du peuple à l'autodétermination, dit des trucs. C'était une violation du droit international. Et c'est le Mali est un membre des Nations Unies depuis 1960. Alors, d'ici là, les pays, on ne doit pas jouer de complaisance avec des grosses armées séparatistes. Mais bon, de même.
Il nous reste 18 minutes, mais pour boucler cet axe de sécurité, à quoi faut-il s'attendre désormais?
Oui, bon, désormais, il faut renforcer notre position dans ces frontières. Ceux qui sont à Berre, je les salue bien, le commandant en charge des éléments du Scorpion, et puis ceux qui sont aussi à Tazawaten en position avancée, on les salue, on dit de garder leur position. Et ceux qui sont à Kidal, c'est de continuer à renforcer et vivre avec la population de façon saine et éviter, faire en sorte que la population ne soit pas enrôlée dans cette idéologie séparatiste.
D'accord. Docteur Touré, parmi les 8 axes, on peut noter aussi la poursuite des réformes politiques. Selon vous, qu'est-ce qui reste à réformer à présent?
Bon, il reste beaucoup. Beaucoup d'efforts ont été fournis, mais il reste beaucoup à faire parce que en matière de réforme, nous attendons la révision de la loi électorale qui a été posée clairement, soit la suppression du financement ou la réduction des partis politiques. Et d'autres mécanismes aussi sont attendus. Dans ce sens, le gouvernement a beaucoup à faire. Et aussi l'adoption d'un chronogramme à la suite des consultations avec les partis politiques ou autres qui est attendu. Mais à ce niveau, le gouvernement a fait le maximum des réformes qui ont été réalisées sous la transition lorsque le Cheikh Kokkola Mega était Premier ministre. Donc les réformes légères, entre autres, nous avons su la constitution, le référendum. Donc c'est des succès. Et le président de la transition l'a dit, la transition, il y a la continuité de l'action gouvernementale. Donc les réformes sont en cours. Il a demandé à ce que les acquis soient consolidés et que les réformes soient poursuivies, notamment dans le domaine de l'éducation, la lutte contre la corruption, les réformes judiciaires, entre autres. Donc, à ce niveau, moi, je me prononcerai plutôt sur, au-delà des réformes, ce que nous attendons, surtout du gouvernement, c'est l'apaisement du climat social. Donc, le Premier ministre a entamé des démarches salutaires, notamment en rencontrant les familles fondatrices, le Haut Conseil, les associations et missions évangéliques, le secteur privé et l'EDM, pour dire que la relance économique est un point saillant de sa mission.
Oui, mais concernant l'apaisement du climat social, impact de stabilité et de croissance a été déjà signé, mais désormais, comment relever le défi de ce pacte?
Bon, en réalité, le Mali, on a les textes. Hein. On participe, on signe, on tombe d'accord, mais le problème, c'est que notre difficulté, c'est notre unité dans notre diversité. C'est-à-dire qu'on est là, mais en réalité, on n'est pas ensemble. Donc, il faudrait que les premiers ministres travaillent en cela. Et je le proposerais plutôt, au lieu de rencontrer séparément les gens, ils peuvent faire des journées de consultation autour des autorités régionales ou locales, ou je ne sais pas, ils vont trouver la formule, des consultations notamment sur l'apaisement du climat politique et social, de l'EDM et de la politique. Parce que sans des consultations, il est très difficile de s'en sortir. Sinon, on a le pacte, il y a eu, même malgré ce pacte, il y a eu des tentatives de violation, des tentatives de grève de Sinabef, tu as vu comment cela s'est passé. Donc, ce n'est pas les textes qui manquent, mais c'est l'individu même, la question même de la division qui pose problème. On devrait plutôt s'unir. Quand nous serons capables de nous unir à atteindre l'unicité dans notre diversité, le Mali pourra s'en sortir en ce moment.
D'accord. Madame Assamaké, parmi les réformes à faire, qu'est-ce qui reste selon vous?
Bon, je pense, dans les réformes, je l'ai tantôt dit, hein, je dis que la gouvernance de façon globale, gouvernance des ressources humaines, des ressources économiques et tout ce qui s'ensuit, bon, j'imagine que dans cette réforme, peut-être c'est entamé à travers la justice qu'on a mentionnée, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui devraient être mentionnées. Au-delà de ça, je pense également que la question de l'égalité des sexes en droit et en devoir a été complètement mise de côté, parce que vous allez voir dans ces 8 orientations, on parle des jeunes. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, partout on parle de jeunes, on parle également de femmes, parce que c'est des groupes spécifiques qui ont été longtemps oubliés et qu'il fallait intégrer en matière de développement. Ça, on appelle ça de l'inclusivité. Et cette inclusivité-là devrait être de mise, parce que le Mali, quand même, a entamé une dynamique depuis les années 70, avec, 79, avec la ratification de la Convention contre l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres textes juridiques qui ont été ratifiés au niveau sous-régional également, non seulement régional, mais ça a été traduit dans nos textes nationaux. Donc ça veut dire que déjà, on a vu que c'était une tendance qui était de nature à favoriser l'égalité en droit et en devoir des femmes et des hommes en matière de prise de décision, mais surtout de contribuer au développement social, développement économique, développement politique, parce que de toutes les luttes qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont toujours participé, les jeunes ont participé. On est tous là, on est tous ensemble. Mais aujourd'hui, ce que je déplore à travers la mise en place du gouvernement, c'est le fait de réduire l'effectif des femmes qui n'étaient déjà pas assez, parce que c'était en violation avec la loi 052 de 2015 qui stipulait que dans toutes les fonctions nominatives ou électives, le nombre de personnes, en tout cas en matière de répartition entre les sexes, ça ne devrait pas dépasser 70%. Et avec les 6 ministres dans l'ancien gouvernement, on était avec un taux d'environ 20,6%. Aujourd'hui, on se retrouve à 17,8%. Donc, c'est une régression. Et je constate cette tendance-là au sein des 3 pays de l'AES, où on n'avait même pas, on n'a pas même un ministère spécifique dédié à la question de la promotion de la femme.
D'accord. Parlons maintenant des élections. Vous l'avez dit dans votre introduction, même si l'organisation des élections vient en dernière position, est-ce qu'il existe des signaux montrant l'intention des autorités à aller vers les élections?
Je pense que les autorités n'ont pas le choix que d'aller vers les élections. Je pense que la question, c'est juste le timing. Combien de temps devrait-on attendre pour aller aux élections? Je pense que le débat est à ce niveau. Sinon, le fait d'organiser des élections est indispensable pour ce gouvernement de transition. Il y va d'abord de sa légitimisation au niveau peut-être de la communauté internationale qui exige justement ces élections-là. Et en même temps, il y va aussi de la demande sociale souvent avec tous les partis politiques qui réclament aussi ces ces élections-là. Mais je pense que le gouvernement a fait son choix. Le gouvernement a fait le choix de ne pas se précipiter pour aller vers les élections. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'était déjà une recommandation des organisations sous-régionales comme la CEDEAO qu'il fallait mettre en place ce qu'il faut avant d'aller aux élections.
Mais la proposition des dates revenait à l'AIGE. Cet organe est-il fonctionnel selon vous ?
On peut dire que c'était un organe, parce que ça a été mis en place, c'est un organe fonctionnel, sauf que je pense que ça va peut-être à pas de... De tortue, si le mot est permis. Mais je pense que le fait déjà d'avoir l'AIGE, c'est une volonté politique affichée, c'est-à-dire une structure indépendante de gestion des élections. Ça, c'est quand même un pas qu'il faut saluer en la matière.
La création de conditions nécessaires pour l'organisation des élections crédibles et transparentes inscrites dans les priorités du nouveau gouvernement à Bamako ainsi qu'à l'intérieur du pays. Cette nouvelle réjouit certains Maliens qui souhaitent la fin de la transition, mais d'autres pensent que l'organisation des élections n'est toujours pas aujourd'hui une priorité absolue. Suivant.
À mon avis, il faut aller aux élections, sinon ça ne va pas.
S'ils arrivent vraiment à maîtriser la situation sécuritaire, ils arrivent à maîtriser la situation des inondations, là, ils peuvent le faire.
À mon avis, on ne doit même pas parler d'élections maintenant, parce que nous voulons d'abord que notre pays soit sécurisé.
Il faut penser vraiment aux élections.
Cela veut dire que les dirigeants actuels voient le bien fondé d'aller vers surtout ces élections-là.
Ce n'est pas possible de faire les élections dans ce délai, parce que le pays même n'est pas stable d'abord.
Si la sécurité n'est pas retrouvée sur l'étendue du territoire national, c'est difficile.
L'élection, pour moi, ce n'est pas la priorité absolue.
En écoutant ce micro-trottoir, y a-t-il des contraintes liées, selon vous, à l'organisation des élections ?
Bon, c'est compliqué. Ça va dépendre de la volonté des décideurs et la volonté également de la population. Alors, on est appelé à être ensemble pour sauver ce corps d'1 240 000 km² et poussière. Alors, donc, il y a des territoires qui sont menacés. Alors, donc, il s'agit d'être ensemble. Mais dans des cas pareils, on voit ça en Afrique, généralement en Afrique, où il y a des officiers qui décident d'être témoins du changement. Alors, donc, ça survient à la suite des changements anticonstitutionnels du pouvoir. Les Gamal Abdel Nasser d'Égypte en ont fait à leur temps. Ils ont essayé de changer l'Égypte en leur façon. Les officiers Younis Libre du colonel Kadhafi, il en a fait à sa manière. Après, il a posé son problème. Il dit que lui n'est pas président, il est guide de la révolution libre. Bien et qu'il doit continuer à gérer comme ça. Et puis voilà. Donc, ça va dépendre de la volonté du peuple malien. Mais en tout cas, le Mali vient de loin. On a fait plusieurs régimes, mon cher. Depuis au Moyen-Âge, on était dans une aristocratie de Keïta. On a tenté ça. Après, on est arrivé dans la royauté, dans l'époque moderne avec l'Ngolo Diarra de Sékou. Alors maintenant, la démocratie, il y a des crises à ce niveau. Mais on doit tout faire pour faire en sorte que la démocratie soit notre chemin pour arriver à
vous l'avez dit, vous avez l'habitude de rencontrer les autorités militaires sur des questions notamment militaires. Est-ce qu'il arrive souvent que vous notez qu'il y a des incertitudes sur la tenue des élections?
Non, c'est pas leur problème. La question politique, c'est pas leur problème. Leur problème est réellement c'est le terrain. Et là, on se retrouve au niveau de la sécurité, Et là, c'est de là que j'ai fait beaucoup mes études. Mais je sais que tant qu'il n'y a pas de stabilité politique, ça va impacter réellement sur le terrain. Maintenant, un autre élément qu'on a beaucoup oublié, il faut vraiment travailler sur l'éducation. Et là, déjà, on pense qu'avec les armes seulement ne suffisent pas. Vraiment, il faut revenir à assainir nos facultés, nos universités, et ensuite faire en sorte que le peuple soit préparé à l'exercice démocratique. Quand vous voyez, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, le Mali, aujourd'hui, a besoin de la démocratie. Alors, tout comme le corps humain a besoin de l'oxygène, il faut travailler dans ce sens. Ça arrange même en réalité les décideurs. Alors, trouver une formule pour rentrer dans l'ordre constitutionnel normal et essayer de partir avec les autres partenaires, essayer d'assainir nos éléments diplomatiques auprès de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, l'organisation régionale, l'Union africaine. Alors, donc, il faut aller vers ça. Mais bon, rester dans cette situation avec le flou sur ça, c'est pas du tout bon. Alors, souvent, ça crée des problèmes. Et ce qui a salué ici, nos officiers sont restés ensemble. L'armée est restée ensemble, unie. Alors, les divisions qui existent entre les politiques, qui Dieu ne le fasse pas, si ces divisions arrivent au niveau des corps, ça crée des problèmes. Alors, nous avons vu le cas de Soudan, entre Bouane et l'autre. Alors, donc, ça crée des situations comme ça. C'est pourquoi revenir à l'ordre constitutionnel, en tout cas, pour faire en sorte que le pays soit stable politiquement, vraiment, c'est nécessaire. Bon, le temps était venu, et l'opération Télécroix était lancée en préparation, qui, son objectif, c'est de sécuriser les élections. Bon, dès lors, bon, les choses restent comme ça, mais peut-être qu'il y a des priorités que le gouvernement voit dans ce contexte-là, que nous autres, parce que c'est eux qui sont le commandant de bateau malien dans ce sens. Mais en tout cas, il faut tout faire pour éviter des tensions politiques, des crises politiques à l'intérieur, à Bamako, et pour ne pas vraiment balayer tous les acquis qui sont déjà là.
Docteur Ahmadou Touré, s'il devrait y avoir des élections, combien d'élections devrions-nous organiser?
La grande question, est-ce qu'il y aura les élections à quand la fin de la transition? C'est des questions connexes. Pour rappel, il faudrait que les uns et les autres comprennent qu'au Mali, la priorité, ce n'est pas les élections. Si on comprend ce point, il n'y aura pas de problème. Deuxième point, annonciateur aussi.
Vous n'êtes pas optimiste qu'il y aura des élections?
Bon, les élections, pas tout de suite. Les signaux sont là. Il y a la bonne volonté du gouvernement. Il y a le ministre en soutien au processus électoral qui est là. L'EJ est là. L'EJ a déjà travaillé par rapport aux élections précédentes. La loi des finances a été budgétisée dans la loi des finances 2025. C'est-à-dire les signaux sont là. Comme l'a expliqué le Premier ministre dans son allocution, entre les autres et la sécurité serait primordiale. Mais cela n'en tient pas. Qu'est-ce que nous souhaitons pour que nous puissions avoir une vision claire et nette de la transition? Qu'on dégage clairement la vision de la transition, que les consultations avec les partis politiques se tiennent dans un bref délai pour établir un calendrier, pour que les uns et les autres puissent avoir la certitude qu'il y aura élection. Sans une vision claire, sans un calendrier clair, sans des consultations, nous serons toujours dans des discussions. Et pour exemple, on peut même budgétiser, on peut tout faire. Et à la dernière minute, on vient nous dire que la sécurité est là. Donc, reportons les élections.
Madame, si les élections venaient d'être organisées et qu'une partie de la population n'a pas participé à ces élections, va-t-elle reconnaître les autorités issues de ces élections-là?
Bon, je pense que c'est l'inquiétude principale qui fait qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un argumentaire qui est utilisé pour que justement on ne puisse pas mettre en priorité ces élections-là. Parce que nous savons très bien que pour parler de démocratie, il faut que la population puisse s'exprimer. Et pour que la population s'exprime, il faut que cette population soit suffisamment en sécurité pour aller voter. Et nous savons très bien qu'au Mali aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires qui, même si les groupes terroristes ne sont pas de façon assidue dans ces zones-là, c'est des zones qui sont presque coupées des autres zones compte tenu de tout ce qu'on a comme facteur d'insécurité et qui ne permet vraiment pas à la population, justement, non seulement de survivre dignement, mais également de pouvoir être même préparée à aller à penser politique. C'est plutôt la survie qui est demandée par ces populations-là.
D'accord.
Et d'accord. Donc, de mon point de vue, ces populations-là qui sont dans ces zones, tant que nous n'arrivons pas à couvrir l'intégrité territoriale de façon vraiment, en tout cas tout le territoire, je veux dire, ça va être difficile que nous puissions organiser les élections partout. Mais on a vu également un précédent sous le régime Ibeka où on a vu qu'il y avait quand même l'insécurité, on a fait les élections. À travers les référendums également, on a vu que c'était possible de faire en sorte que nous puissions avoir au moins un maximum de la masse populaire qui puisse participer. Alors, doit-on reconnaître ou pas? Ça, c'est une question qu'on laisse à la population.
Touré disait tout à l'heure que même s'il y aura des élections, mais ce n'est pas à tout de suite, comment trouver, selon vous, un consensus sur un chronogramme précis et détaillé?
Mais c'est le dialogue. Je pense que c'est ce qu'on a dit. C'est la concertation, c'est les consultations. Mais également, nous savons très bien que les agendas, souvent, des partis politiques ne coïncident pas forcément avec l'agenda des autorités en place. Donc, avoir un consensus, ça peut être une difficulté.
Allez-y.
Oui, par rapport à la question, quelle élection il faut de moi, je penserais plutôt les élections générales. Mais les élections de proximité, vont poser des problèmes.
D'accord. Voilà. Quelles conséquences si le Mali ne partait pas aux élections? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences?
On ne peut pas dire qu'il peut pas. Il y a des conséquences déjà. Il y a des conséquences déjà, mais il faut travailler à ce que ces conséquences ne soient pas vraiment un problème pour la question de la sécurité et bien d'autres trucs. Il y a des problèmes déjà.
D'accord. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le nouveau gouvernement, le regard sur les 8 grandes orientations. Et nous étions avec Madame Samake Fatoumata Traoré, experte sur des questions de gouvernance politique. Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Dr Ahmadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. À la présentation, c'était Imran Akilou Maïga. Merci d'avoir suivi ce grand dialogue. À demain pour un autre numéro.